Lors d'une émission précédente, Paul Masson, militant de l'éducation populaire, nous avait proposé une histoire du système des retraites depuis sa création sur la base du programme du Conseil national de la Résistance. Nous avions également vu comment la mise en place du néolibéralisme dans les années 80 avait remis en cause le contrat social et donc avait eu des effets sur le système des retraites. Enfin, il nous avait montré la continuité qui existe dans la réforme globale du système des retraites, réforme globale entamée en 1987 avec Édouard Balladur. Nous retrouvons donc aujourd'hui Paul Masson qui nous explique les enjeux liés à la réforme actuelle et les nouveautés dans le rapport de force qui s'installe entre le gouvernement et le mouvement populaire. Paul, aujourd'hui, nous sommes dans un rapport de force ouvert avec une forte mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Macron. Peux-tu nous rappeler le but et les enjeux de cette réforme ?
Les enjeux sont énormes. Actuellement, on est dans un rapport de force où il s'agit de faire disparaître le système social mis en place en 1945 et garanti par l'État pour réussir à faire en sorte que l'objectif néolibéral de tout marchandisé puisse se faire. Donc, on passe d'un système avec un certain nombre de garanties collectives à un système où il faut créer de l'insécurité sociale de manière à ce que les personnes, en fonction de leur capacité d'épargne, investissent le marché financier. C'est ça l'objectif. Dans le système de 1945, et c'est-à-dire celui qui existe actuellement, on est de prélever des cotisations sociales qui permettront de donner un revenu aux travailleurs quand ils seront en retraite, quand ils seront malades. Et il ne faut plus donner ce revenu aux travailleurs pour qu'ils aillent sur le marché financier. Le deuxième aspect, c'est que ces cotisations sociales étaient gérées paritairement par les syndicats ouvriers et les organisations patronales. Et ça aussi devient un handicap. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus cette gestion paritaire, mais que la gestion de l'épargne soit gérée par le marché financier.
Dans cette première émission, tu terminais en disant que la réforme Macron s'inscrit donc dans cette continuité d'une réforme globale du système de retraite engagée depuis 87. Aujourd'hui, on a plus d'éléments sur la réforme actuelle, donc est-ce que ça se confirme ?
Alors effectivement, on va retrouver dans la réforme exactement les mêmes choses que dans les réformes précédentes. Il s'agit de diminuer le revenu des retraités et dans la réforme, le passage des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois pour les fonctionnaires à l'ensemble de la carrière permet de diminuer ce qu'on donnera, puisque les années qu'on prend en compte sont des années où le revenu va être plus bas que dans les meilleures années. La réforme Balladur qui avait fait ça a permis de diminuer les retraites de 16%. Donc cette nouvelle mesure est tout à fait dans la continuité, faire en sorte qu'on diminue la part de revenus qui revient aux retraités. Deuxième axe qu'on a retrouvé avec le retard de plus en plus de 60, 62. Maintenant, avec l'âge pivot à 64 ans, on diminue le nombre de retraités. Puisque si on part plus tard en retraite, comme on mourra toujours à la même date, de fait, il y aura moins de gens qui seront en retraite à ce moment-là. L'âge pivot ajoute quelque chose en plus, c'est que dans les réformes précédentes, on disait l'âge de départ en retraite, ce sera 62 ans. Maintenant, on dit l'âge pivot à 64 ans. Sinon, il y a une décote. Conclusion, les gens, pour ne pas avoir la décote, vont aller plus tard. Et l'âge pivot va reculer de plus en plus. C'est-à-dire que le système de l'âge pivot, c'est aussi une réforme structurelle. On n'aura plus besoin de retarder par la loi l'âge de la retraite, puisque le système fera en sorte que, de fait, cet âge reculera de plus en plus avec la décote qui se met en place. Donc ces deux points vont tout à fait dans ce qui était développé précédemment. Il s'agit de faire en sorte que les retraités aient de moins en moins de revenus, de manière à ce que, pour pouvoir vivre, ils essayent d'épargner et d'acheter sur le système financier. On a eu, en même temps par le gouvernement Macron, la mise en place d'un plan d'épargne retraite défiscalisé, c'est-à-dire ceux qui iront vers une retraite par capitalisation, en épargnant, verront des avantages fiscaux qui seront au détriment du budget de l'État. Et une chose nouvelle de ce gouvernement, sur la loi de finances 2020, il va faire une réduction d'impôt sur les cotisations sociales pour financer une des mesures des Gilets jaunes. Cet argent, c'est une décision gouvernementale, c'est-à-dire qu'il incombe au budget de l'État. Et le gouvernement a fait passer dans la loi de finances 2020 que cet argent-là serait à la charge de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même logique. Il faut faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'argent pour les salaires indirects, de manière à ce que les gens achètent des plans d'épargne retraite. Donc, la réforme Macron est tout à fait dans la continuité de ce qui s'est fait depuis Balladur.
Donc tu expliques bien comment tout ça s'inscrit dans une continuité engagée avec des réformes successives depuis les années 80. Pourquoi alors que cette réforme dure depuis 30 ans, cette fois-ci on assiste à une contestation beaucoup plus forte?
Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a l'aspect du rapport de force qu'on verra peut-être après. Mais là, l'autre raison, c'est que la réforme Macron joue sur la structure de financement de la protection sociale. L'enjeu, c'est de faire en sorte que le marché puisse récupérer les 300 milliards d'euros de la retraite. Alors, pour ça, il ne faut plus qu'on pense une retraite qui serait, dans l'esprit de 1945, avoir un revenu pour vivre qui serait assuré par des règles négociées collectivement et garantie par l'État. Il va falloir passer à autre chose. Ça va être que, avec le compte individuel par point, il n'est plus question de revenus pour vivre. Il n'est plus question de l'État qui se porterait garant d'une protection sociale. Avec le compte individuel par point, on change de logique. Chacun et chacune individuellement achète au cours de sa carrière des points, et on est plutôt avant le système des retraites où les catégories sociales qui avaient les moyens se constituaient une rente en plaçant leurs économies. C'est les banques qui se portent garant de rien du tout d'ailleurs, et ce n'est plus une garantie collective. Ce système qui constituait une rente qui a fonctionné avant la dernière guerre, pour certaines catégories, il a fait faillite au moment de la crise de 1929. Les gens, ils avaient placé leur argent, c'est la crise, pof, ils arrivent à retraite, et ils n'ont plus de retraite, puisque les banques disent, eh ben, nous, on ne peut plus les payer. Ce changement, le système par points, ce n'est pas un changement de méthode de calcul. C'est une autre logique. Chacun se démerde, se fait des points, se paye une retraite, se constitue une rente qui lui permettra de vivre ou pas, ça dépendra de lui, il n'y a plus de garantie collective. Et dans ce nouveau cadre, on n'a plus besoin de négociations paritaires pour fixer la part de la richesse nationale qu'on décide d'affecter à la retraite. C'était ce qui était l'objet des négociations paritaires entre les patronats et les syndicats. À la limite, les fonctionnaires de Bercy peuvent calculer, c'est équilibré, c'est pas équilibré, et le gouvernement, en changeant la valeur du point, permet d'avoir tout le temps l'équilibre financier. On n'est plus du tout dans l'idée de garantir des retraites. Alors bien sûr qu'il y a les promesses, on ne va pas baisser la valeur du point, cette valeur sera indexée sur les salaires, mais un prochain gouvernement, au nom de la responsabilité qui est la sienne de tenir les équilibres financiers, eh ben, il dira, on ne peut plus faire quelque chose. Donc, voilà le changement de logique. Ce changement logique, dans la structure va aussi jouer sur la réforme qui prévoit arbitrairement qu'il ne sera pas possible d'allouer plus de 14% de la richesse nationale aux retraites. On a, en 40 ans, on est passé de 5,4% de la richesse nationale qui était allouée aux retraites à 12,6%. On a multiplié par plus de deux fois ce qu'on a affecté aux retraites. Les autres catégories sociales n'y ont pas perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gains de productivité et chaque année, il y a des gains de productivité. De sur les gains de productivité, on a pu tenir compte de l'augmentation du nombre des retraités. Il y a plus de retraités, mais il y a plus de revenus qui est produit, il y a plus de richesses produites. On peut décider de l'affecter du fait des gains de productivité. Depuis 1945, ce sont les partenaires sociaux qui, dans des négociations qui sont conflictuelles, négocient ce qui fera affecter aux retraites, à la sécurité sociale, aux allocations familiales. C'est eux qui décident ça. La loi fixant qu'ils ne pourront pas prendre plus de 14% fait que, de fait, on enferme les partenaires sociaux à discuter sur comment on va faire d'économie sur les travailleurs. À la limite, quelles seront les catégories de travailleurs qui en auront moins et ceux qui pourront en avoir autant ? On comprend dans ce contexte, du fait de cette réforme qui joue sur la structure, que le patronat soutienne la réforme Macron. Il est tranquille, il n'aura plus à discuter avec les syndicats de combien qu'on met pour les retraites, puisque la loi lui interdit d'en prendre plus. Et on comprend pourquoi les organisations ouvrières s'y opposent.
Je me permets d'insister sur un petit détail, parce que tu as parlé du calcul, des 14% du budget alloué aux retraites, mais ce qui peut être compliqué à saisir, c'est 14% sur un total qui augmente. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant pour compenser également l'augmentation du nombre de retraités et donc de pensions à payer ?
Certaines années, ça peut être suffisant. D'autres années, ce n'est pas suffisant. J'avais développé par ailleurs que en 20 ans, la valeur produite a été multipliée par 1,5 en 20 ans. Et pendant ces 20 ans, la part de cette valeur qui a été affectée au capital, elle était de 20%, on est passé à 30%. On a pu donner 10% de plus au capital, c'est-à-dire doubler le pourcentage qu'on lui donnait. Et on ne serait pas en capacité de mettre 0,15% de la valeur ajoutée qui chaque année est gagnée par les gains de productivité, on ne serait pas capable de les affecter aux retraites si le nombre des retraités augmentait. Si les caisses sont équilibrées, il n'y a pas besoin de le faire. Si la valeur produite suffit. Mais si ce n'est pas suffisant, on peut décider d'affecter un peu plus pour les retraités, comme on a décidé à d'autres époques d'affecter un peu plus pour la petite enfance. Il y a quelques dizaines d'années, la petite enfance, il y avait très peu d'argent. Et puis petit à petit, on en a mis mieux, davantage, parce qu'il y avait plus de besoins. Et on peut le faire sur les gains de productivité. Ce qu'il fallait, il y a 40 ans, 12 salariés pour produire cette valeur, actuellement, 5 salariés produisent la même valeur. Donc la valeur produite, elle augmente. Et donc on peut décider sur cette valeur-là d'en mettre davantage pour les retraités.
On va revenir pour terminer sur la mobilisation actuelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le rapport de force entre le gouvernement et le mouvement populaire?
Je crois qu'il y a quelque chose de structurel qui est en train de se jouer et qu'on a déjà vu au cours de l'année dernière avec les Gilets jaunes. Ça fait maintenant 40 ans que le néolibéralisme s'est imposé et Dans un premier temps, on a eu un effet de sidération où les organisations syndicales, où les gens ont dit « c'est la fatalité, il y a la mondialisation ». Et ils se sont trouvés dans un état de sidération qui fait qu'ils ne se sont pas révoltés. Mais maintenant, la population en a ras-le-bol qu'on lui mange la laine sur le dos. Que les gouvernements successifs fassent des discours, mais continuent de privilégier les revenus qui vont au capital en le prenant sur la majorité de la population. Le mouvement des Gilets jaunes a ouvert une porte en disant « c'est fini, il ne faut plus qu'on accepte ça ». Et il a gagné, le mouvement des Gilets jaunes. On est maintenant dans la grève, ça fait plus d'une génération qu'on n'a pas eu une grève qui dure plus de 30 jours. Donc on est dans ce rapport de force. Rien n'est joué. Et on voit bien qu'autour de ce rapport de force, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu entre la minorité qui détient 50% de la richesse mondiale et la majorité de la population. C'est vraiment une lutte frontale entre ces deux forces sociales. Ce gouvernement, plus que les précédents, ayant choisi son camp résolument, pendant que Philippe négocie avec les organisations syndicales, Macron négocie avec BlackRock, et comme par hasard, Delevoye, qui était chargé de la réforme des retraites, se trouve à être administrateur d'une société d'assurance privée qui a tout intérêt à ce que la réforme des retraites se fasse, puisque ce sera les assurances privées qui en seront les premiers bénéficiaires.
Paul Masson, militant de l'éducation populaire au sujet de la réforme actuelle du système des retraites. Retrouvez le plan de ses interventions ainsi qu'une conférence vidéo sur le système des retraites sur son site internet Paul Masson, paulmason.atimbli.net.